Il faudra probablement un minimum d'un an avant que l'on puisse parler d'un retour à une situation quasi normale dans le secteur de la volaille. Chez Exceldor, les pertes s'élèvent déjà à plus de 15 millions de dollars. J'ai joint le vice-président principal à la division poulet chez Exceldor, Joël Cormier, pour brosser le tableau de la situation.
Monsieur Joël Cormier, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Levac.
Monsieur Cormier, tout d'abord, faites-nous un petit portrait de ce qu'est Exceldor. C'est une coopérative à la base.
Exact, c'est une coopérative, Monsieur Levac, qui a été fondée en 1945. En fait, en 1945, c'était deux coopératives, une à Saint-Anselme, dans la région de Québec, et puis une autre coopérative qui était localisée à ce moment-là à Saint-Damas, en Montérégie. Et les deux ont été fondées la même année, en 1945, par des producteurs des régions respectives. Et en 1995, ces deux coopératives-là ont fusionné pour former ce qu'on appelle aujourd'hui Exceldor Coopérative, qui compte au Québec et dans l'Est de l'Ontario environ 260 membres et s'est ajouté l'année dernière suite à une fusion avec la coopérative Granny's du Manitoba, environ un autre 150-160 membres, ce qui fait aujourd'hui d'Exceldor Coopérative la plus grande coopérative avicole de transformation de volaille au Canada.
Une idée du volume que représente la production des membres d'Exceldor et l'abattage que vous faites là, en volume à peu près là.
En volume à peu près, on parle par semaine dans l'ensemble de nos opérations en poulet, tout près de 2 millions d'oiseaux transformés par semaine sur l'ensemble de nos sites de transformation primaire. Et à cela, on ajoute également là, une production de dindons là, dans nos usines d'Unidindon, copropriété avec Holly-Mel, et notre usine d'Hanover en Ontario, qui est une usine là, qui nous appartient à 100%.
Bien sûr, la pandémie du COVID-19 que l'on connaît a des effets assez directs sur les activités d'Exceldor. C'est dû principalement, et là je le fais sous forme de question, est-ce que c'est dû principalement au fait que le marché des rôtisseries est tombé très sévèrement là actuellement?
Oui, c'est sûr que les impacts de ce qu'on vit présentement, on les reçoit de plusieurs façons. La première façon, ça a été les ajustements qu'on a dû apporter à l'ensemble de nos opérations pour respecter les attentes et les demandes de la santé publique dans chacune des provinces. Donc, ça a impliqué des investissements importants pour équiper nos employés de mesures de protection individuelle, mais également des mesures de distanciation physique qu'on a installées entre les employés aux endroits où le 2 mètres ne pouvait pas être respecté afin de maintenir une certaine cadence, une fréquence d'abattage. Mais bien entendu, à cela, on a dû réduire certaines vitesses dans des usines pour faire en sorte là, d'éviter que les gens se croisent, exemple, durant les pauses, donc des périodes de pause plus longues, de dîner plus longues. Ça a impliqué également la location, exemple, de roulottes pour permettre aux employés d'être distancés lors des pauses et des repas, la prise de température à l'arrivée le matin, questionnaire à faire le tour. Donc ça a amené les premières contraintes au niveau opérationnel dès le jour 1. Par la suite, ce qui est arrivé, puis comme vous le mentionnez dans votre question, c'est l'effondrement complet du marché de la restauration qui représente au Canada, grosso modo, pour l'ensemble des transformateurs, un 30 à 40 % des volailles transformées qui étaient dirigées vers le milieu de la restauration. Et ça, du jour au lendemain, ce segment-là a pratiquement totalement disparu. Au début, on croyait que les gens disaient tous, ici comme à l'externe, les gens vont continuer de manger, donc ce qui ne se mange pas au restaurant va se manger en épicerie. Et malgré un boom dans les premières semaines de la crise là, de consommation au détail, ce fut davantage un comportement des citoyens et des consommateurs d'acheter massivement pour se faire des réserves que vraiment un transfert de la consommation vers le détail. Parce qu'après ces deux semaines-là, les deux premières semaines de la crise, c'est là qu'on a ressenti que ce 30 à 40 % des oiseaux qui étaient destinés à la restauration ne seraient pas consommés par le marché du détail. On a perdu facilement peut-être 60 % de ces oiseaux-là qui ne sont pas retrouvés d'aucune façon chez le consommateur. Fait qu'on a donné un exemple de l'impact qu'on appelle du marché de la commodité, qui est un marché d'offres et de demandes pures, là, qui n'a aucun contrat avec les clients et les transformateurs là-dessus. Donc, il réagit là, de manière pure à la loi de l'offre et de la demande. On appelle, nous, le line run, dans notre expression de transformation, des oiseaux entiers viscérés vendus en combo, donc dans des vats d'environ 700 kilos, ce qu'on appelle la commodité. On vend ça sur le marché à des transformateurs de la région de Montréal ou de Toronto. Et le coût environ de production, incluant l'achat de la volaille vivante, se situe autour de 3,20 $ du kilo. Et on a vu, durant la crise, là, des prix descendre aussi bas que 50 cents du kilo. Présentement, ça se stabilise autour d'$1 du kilo. Donc, ça illustre clairement là, que le marché qui a disparu, alors que l'approvisionnement est toujours là. Il faut comprendre que c'est pas comme si on faisait des cabanons. Tu dis, ben, mes ventes de cabanons baissent à 30 % je vais arrêter d'en faire, je vais arrêter d'acheter des 2x4, des madriers. Mais nous, la volaille vivante rentre tout le temps comme si c'était prévu. Là. Donc, ça nous emmène à un clash. De ce côté-là, par contre, merci aux éleveurs de volailles du Québec, aux producteurs de poulets du Canada d'avoir ajusté les productions pour la période qui vient de débuter cette semaine de production, puis la subséquente là, de baisse de production significative pour permettre justement là, de faire face à la nouvelle réalité puis à la nouvelle demande.
Est-ce qu'on peut parler de 30 % de baisse des approvisionnements dans les futurs calendriers de livraison là?
Non, c'est une baisse pour la période actuelle de production qui débutait cette semaine, qui se termine en début juillet. C'est une baisse de production de 15 % de la production canadienne. Et puis la période de production qui débute au début juillet pour se rendre jusqu'à la fin d'août, c'est une autre baisse environ de 12 % qui a été planifiée dans les calendriers d'élevage des producteurs. Qui, normalement, avec ces ajustements-là, puis c'était fait de concert avec les transformateurs, là, tant au Québec que canadien, c'est un ajustement qui, selon nos prévisions, nous permettrait d'une part rencontrer la nouvelle demande, mais également, il faut comprendre que dans la période où la production était à pleine vitesse, puis que le marché n'était pas là, les transformateurs canadiens, puis que Exceldor, c'est notre cas, là, on a mis beaucoup de produits en inventaire congelés. Il n'y avait pas de demande, là, 50 cents du kilo, c'est pratiquement dire qu'il n'y a pas de demande. Donc, on a mis beaucoup de produits en inventaire congelés et on va avoir besoin, justement, d'une production plus faible pour nous permettre d'écouler ces inventaires-là pour pas, finalement, les détruire. Donc, c'est des coups durs absorbés. C'est un peu paradoxal. Le gouvernement fédéral était clair dès le départ de dire que les services de transformation, en fait, toute la chaîne d'approvisionnement agricole était un service essentiel à la vie. Et puis, on a répondu à ça. Puis, le deuxième mandat qu'on a eu des gouvernements provinciaux et fédéraux, c'est de s'assurer de ne pas avoir à faire de la dépopulation à la ferme par manque de capacité ou par manque de marché. Fait qu'on a répondu à ça. Et je me permets ici de passer un petit message, M. Levac, aux gens qui écouteront l'entrevue. C'est qu'on fait tout ça, on répond à ce besoin de services essentiels-là pour les consommateurs canadiens et québécois, pour la chaîne d'approvisionnement qui est du vivant. Mais à ce jour, on n'a aucune aide significative de la part des gouvernements pour venir nous aider, les transformateurs, Exceldor, à faire face à des coûts augmentés et à un marché qui a complètement disparu, alors qu'on doit opérer pareil comme si ce marché-là était là.
Ce qui veut dire des pertes importantes actuellement, là.
Définitivement. On parle de pertes juste pour Exceldor, là, entre le mois de mars et la fin mai. L'achat d'équipements de protection individuelle, l'installation de barrières physiques, les ralentissements de chaînes d'abattage et la perte du marché de la restauration, c'est un montant qui dépasse le 15 millions de dollars. Et je vous dirais, pour siéger sur le conseil d'administration du Conseil canadien transformateur d'œufs et de volailles, qui regroupe 95 % de la transformation de poulets, de dindons et d'œufs, le scénario est pareil pour l'ensemble des joueurs canadiens. Là. Donc, on parle d'une enquête rapide faite à une maison là, au sein du CCTOV. C'est des chiffres qui dépassent le 150 millions de dollars de pertes au Canada là, présentement. Et pour ça, je vous disais plus tôt, dans l'une de vos questions, le gouvernement fédéral a émis plusieurs programmes, entre autres un programme là, de compensation financière pour les salaires, mais avec un seuil de déclenchement à 30 % si vous avez des baisses de revenus. Donc, si vos revenus baissent de 30 % et plus, vous avez une subvention au salaire. Mais nous, comme on doit opérer avec des volumes qui n'ont pas ils n'ont pas été ajustés à la baisse, nos volumes, on doit opérer pareil. Nos baisses de revenus représentent à peu près 18-20 % alors que nos marges ont passé de marge positive à marge négative. Et c'est ça qu'on essaie présentement de discuter avec les gens d'Agriculture Canada, avec le support du MAPAC, qu'on a besoin d'une aide là, pour poursuivre les opérations de transformation à long terme, ne sachant pas quand les marchés vont vraiment se rétablir.
Justement, j'allais enchaîner sur le fait que là, vous avez pris toutes sortes de mesures, vous essayez de stabiliser un peu les activités en fonction de la demande du marché, etc. Mais c'est pas fini la crise, là, et vraisemblablement, on en a encore pour quelques mois, sinon plusieurs mois, là.
Définitivement, nos boules de cristal, si on peut les appeler ici, quand on les consulte, on essaie de voir ce que le marché nous réserve. Une des choses certaines pour nous, c'est que c'est difficile de dire que ça va être établi en cours d'année. Bien qu'il y ait un déconfinement annoncé au niveau provincial, ça tarde encore du côté de l'Ontario, mais du côté du Québec, un certain déconfinement, le risque de contamination, lui, demeure présent. Ce qui veut dire que pour nous, la santé et la sécurité de nos employés demeure la priorité numéro un. Donc, toutes les mesures qui ont été mises en place, qui ont un impact sur la productivité, vont demeurer en place. Et pour nous, on ne voit pas le retrait de ces mesures-là tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un vaccin de mis en place ou que les instances en santé publique vont nous dire, ben là, il n'y a plus aucun danger. Donc ça, ça va rester à long terme. Et on voit difficilement avec ces mesures-là aussi, quand on regarde la restauration, un retour à la normale dans les restaurants. Je pense que les restaurants vont réouvrir dans le temps, mais une salle de restaurant qui accueillait 200 personnes, ben, ça va peut-être être 75 personnes à la place. Donc, les volumes vont être plus faibles. Et une des choses, je pense, qui est en train de s'installer du côté des consommateurs, quand on parle avec les dirigeants de nos clients, les grandes chaînes, au niveau détail, c'est que le consommateur, ses habitudes d'achat ont changé. Et plus on laisse ces habitudes-là en place, prendre du temps, ben ça veut pas dire que la journée que tout redevient à la normale, la journée que la COVID a disparu. À titre d'exemple, les consommateurs se sont tournés davantage vers des aliments avec des durées de vie beaucoup plus longues. Donc, des aliments transformés d'une façon où la durée de vie est plus longue. Le consommateur aussi, surprenant, là, ce qu'on apprend dernièrement, puis ça fait du sens. Avant, le consommateur faisait peut-être 3 épiceries pour faire son épicerie de la semaine. Mais dans le contexte actuel où tu attends une demi-heure, 45 minutes, une heure, peut-être même plus à des endroits pour faire ton épicerie, ben t'en fais plus 3, t'en fais 1. Et ça explique aussi un peu les limites que les détaillants mettent sur les items en épicerie, parce qu'ils disent si le client vient chez nous, attend une heure, rentre faire son épicerie et trouve pas l'item qu'il veut, ben le prochain coup, il viendra pas attendre une heure chez nous. Il va attendre une heure ailleurs. Donc, il y a tout ça qui fait que ça vient influencer grandement les habitudes de consommation des consommateurs. Puis, en fait, tout le monde dans la chaîne d'alimentation, présentement, doit composer avec ça puis tenter d'apprendre ce qui va être le futur. Mais chose certaine, à court terme, là, d'ici le printemps prochain, on pourrait difficilement un retour à un semblant de normal. Je disais, quand on s'est parlé au tout début, M. Levac, on apprend à vivre dans notre nouvel environnement, notre nouvelle normale, là, mais c'est un peu ça, là.
Du côté santé de vos travailleurs, ça va bien de ce côté-là? Les mesures que vous avez prises ont été efficaces jusqu'à maintenant?
Écoutez, j'ai la chance d'avoir un bureau en bois, fait que je le touche comme faut, dans le sens où c'est quand même un virus. Puis ce qu'on voit, c'est que la contamination peut venir par plusieurs endroits. Mais nous, au niveau de nos opérations, on a été rapide à mettre en place les mesures physiques, les barrières physiques entre les employés. En fait, quand on a eu les premiers cas, on a eu une usine qui a eu les premiers cas dans la région de Montréal, à Saint-Bruno de Montarville. Quand on a eu les premiers cas-là, on a tout de suite compris l'impact, l'importance, la rapidité d'action de ce virus-là. Et dans la fin de semaine qui a suivi, la fin de semaine subséquente, on avait nos équipes d'ingénierie et de chargés de projet qui installaient dans l'ensemble de nos opérations des mesures de distanciation physique et on équipait nos employés à ce moment-là là, de mesures de protection individuelle. Et depuis ce temps-là, il y a rien qu'une chose qu'on a fait, c'est d'upgrader, d'améliorer ces mesures-là pour faire en sorte que si jamais on a un employé qui était contaminé dans son environnement familial ou dans sa communauté, qui se présente au travail, ben l'impact de cette personne-là contaminée sur les autres employés est réduit au strict minimum. Donc, ce qu'on le voit là, présentement, c'est qu'un employé au début de la crise, un employé contaminé pouvait demander à retirer des opérations 10-15 personnes. Aujourd'hui, un employé contaminé, peut-être qu'on va retirer seulement que 2-3 personnes à la place. Donc, ça a un impact majeur pour nous, pour la sécurité des employés, avant tout, là, de limiter l'exposition de nos employés à ce risque-là. Puis, en parallèle, bien, assurer un maintien des opérations.
Et du côté des membres de la coopérative, les producteurs, les éleveurs, est-ce qu'il y a des entreprises qui sont en danger?
Du côté de notre secteur d'activité, la volaille, Excel d'or, mais vrai pour l'ensemble des transformateurs canadiens, nos producteurs, tout comme nos manches Excel d'or, sont sous la gestion de l'offre. Donc, le prix à eux ont été maintenus. Donc, les producteurs aujourd'hui, COVID, sans COVID, la structure de prix pour l'acquisition des volailles vivantes est demeurée la même. Donc, ça couvre le coût de production, les charges, le revenu du propriétaire, le retour sur l'investissement, etc. La formule de prix standard est demeurée la même. L'impact pour nos membres, c'est la baisse de production. C'est ce qu'ils vont vivre présentement, ce qu'on appelle la période de production A163 et la période subséquente A164. Quand je vous dis que les baisses de production de 15 et 12 %, bien, c'est sûr que pour un producteur, bien, il y a a 12 et 15 % moins de volailles produites. Et ben, il y a des investissements qui ont été faits au fil des années sur les fermes. Il y a eu l'acquisition de quotas. Et tout ça est basé sur un revenu X. Et quand ce revenu-là baisse, ben, les charges, elles, demeurent. Donc, on peut s'attendre que ça va être beaucoup plus difficile pour les producteurs là, à compter du mois de mai, de cette semaine, là, la semaine prochaine, ceux qui vont commencer à expérimenter là, cette baisse de production-là. Mais je vous dirais, le moral est somme toute bon. On sent une très grande solidarité au sein des membres Exceldor. Beaucoup d'intérêt à assurer que les opérations soient maintenues. Je pense que l'ensemble de la chaîne comprend que produire des poussins, ils doivent rentrer en élevage, puis rentrer en élevage, ils doivent un jour sortir pour aller à la transformation. Alors, tout le monde est très sensible là, à ce que chacun des maillons demeure fonctionnel, opérationnel au maximum qu'il peut. Et de ce côté-là, là, on sent un très, très grand support et intérêt de la part de nos membres. Comme je vous dis, là, pour eux, là, ça va vraiment venir un peu plus corsé. Pour les jeunes familles qui ont fait des investissements, achat de quotas, comme je disais, construction de poulaillers, les prochaines semaines vont être un peu plus difficiles pour eux là, avec la baisse de ces revenus. Là, bien entendu, le contexte économique d'Exceldor aussi présentement fait en sorte que traditionnellement, on versait des ristournes à chaque année, mais là, pour verser des ristournes, il faut faire des profits, puis si on fait des pertes, mais il n'y a pas de ristournes, donc on va avoir un impact aussi sur eux à long terme si la situation ne se rétablit pas à un certain moment donné.
Bien, écoutez, Monsieur Joël Cormier, merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Et puis, écoutez, le beau temps semble arriver. Bien, souhaitons qu'on retrouve de plus en plus sur nos barbecues de beaux morceaux de poulet, même de beaux poulets entiers là, qui viennent, entre autres, de chez Exceldor.
Oui, M. Levac, merci. Vous savez, anecdotique un petit peu, je suivais des informations de consommation autre que le poulet et on voyait que les ventes de piscines étaient à la hausse d'une manière importante au Québec. Et normalement, avec une piscine vient justement un barbecue. Donc, dans les éléments qu'on souhaite vraiment voir se développer au cours de la saison estivale, c'est justement la période de barbecue. Donc, on y voit de l'espoir. Bonjour, merci, M. Levac.
Bien, merci à vous et puis au plaisir qu'on se reparle.
Au plaisir, au revoir.
Bonjour.
Ici Lionel Levac. On le constate, la transformation alimentaire est sérieusement affectée par la pandémie du COVID-19. Mon prochain blog présentera un autre cas, celui des torréfacteurs. Au revoir.